À le physique suite. Compte beaucoup parce que le physique, c'est le passeport de quelqu'un.
Le corps a une histoire. Épisode 1 est d'abord la beauté.
Parler de la beauté humaine, il est évident qu'il faut parler de la Grèce, parce que les Grecs ont eu un sens extraordinairement vif de la beauté humaine.
Jacqueline de Romilly.
Et une des choses qui me touche, c'est qu'ils ont eu le sentiment de son lien avec les autres mérites de l'homme, ce qui est assez exceptionnel. Ça se voit dès les premiers textes littéraires. Dans Homère, tous les héros ont des quantités de mérite, ils sont vaillants, ils sont nobles, ils sont puissants, ils sont aussi beaux. Alors, en quoi sont-ils beaux ? Il n'y a pas de description, c'est très peu individualisé, et je pense que c'est déjà un des premiers signes du fait que cette beauté est en réalité idéalisée. Et avec Homère, nous comprenons quelque chose qui est un des traits de cet art grec, en tout cas à mes yeux, c'est que il faut se rappeler que la religion grecque était anthropomorphe. Et dans Homère, très nettement, les dieux ont figure d'hommes, d'êtres humains. Et ils sont simplement des êtres humains encore plus beaux que les hommes les plus beaux. Il faut dire que c'est aussi un des traits de cet art grec que d'avoir représenté l'athlète victorieux, le jeune homme fort, puissant, nu. Je précise, j'insiste, parce que les Grecs avaient le sentiment que c'était là une de leurs originalités, que de pratiquer le sport nu. Et cela amenait dans les palestres et partout l'admiration de la beauté du corps athlétique.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec pour nous accompagner aujourd'hui et demain, Georges Vigarello, bonjour.
Bonjour.
Bon, je ne vais pas vous présenter comme un athlète accompli, mais enfin, vous avez fait de la gymnastique et vous avez été professeur d'éducation physique. Mais comment devient-on, on reviendra à la Grèce dans un instant, mais comment devient-on historien du corps? Marcel Mauss disait, moi, j'ai observé en 1935 dans un hôpital la démarche des infirmières. Ça m'a rappelé la marche au pas des soldats que j'ai connus pendant la guerre de 14-18. Et Marcel Mauss a été un pionnier dans ce domaine de l'histoire culturelle qu'est le sport.
Absolument, oui. C'était un historien des techniques, et en particulier des techniques du corps, de façon assez remarquable. C'est toujours très difficile, vous savez, de faire une sorte de réflexion autobiographique. Ce que je peux dire, moi, c'est que quand j'étais adolescent, j'ai pratiqué le sport, l'activité physique, de façon absolument passionnée. Je trouvais ça magnifique. Et je trouvais ça magnifique pour diverses raisons, à la fois parce que c'était un travail de contrôle, c'était en plus un travail de compétition, avec les côtés qui peuvent être obscurs d'ailleurs de la compétition, parce que c'était une façon de s'affirmer, bref, en tout cas c'était vraiment une passion. Et cette passion s'est transformée quasiment en profession, puisque comme vous l'avez dit, j'ai été professeur d'éducation physique, et en même temps, quand vous faites ce type de pratique, soit vous êtes vraiment débordé par la pratique elle-même, soit elle peut vous amener à vous poser un certain nombre de questions. Les questions, elles étaient assez nombreuses, pourquoi j'échoue, pourquoi ça marche pas, vous voyez, pourquoi je réussis pas, ou pourquoi je réussis. Et puis finalement, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ou les autres avant, que faisaient-ils? Et là, je vous cache pas que, je sais pas, les textes que j'avais lus au lycée, Rousseau, etc., sont revenus dans mon esprit, et finalement, ça s'est progressivement enrichi. Je pourrais pas dire comment ça a basculé vraiment du côté de l'histoire. J'ai fait de la philo aussi, à un moment donné. Mais en tout cas, disons que ces pratiques, elles m'ont quand même conduit, à tort ou à raison, à prendre une distance et à essayer de les surplomber.
Rousseau, on finira l'émission avec lui, le 18e siècle, mais parler de la beauté, recommandait Jacqueline de Romilly, c'est évidemment parler d'abord de la Grèce. Qu'est-ce qu'il se faisait pour se rendre beau, les Grecs? C'est peut-être une question que vous vous posiez.
Bien sûr,
quand,
bien sûr.
Vous vous produisiez dans différents sports.
Oui, absolument. Je pense que Jacqueline de Romilly a dit beaucoup de choses très importantes. La première, d'abord, elle a parlé essentiellement des hommes. La beauté grecque pendant longtemps, pas sur l'ensemble de la civilisation grecque, mais pendant longtemps, a été une beauté masculine. Cette beauté masculine, elle s'affirme à la fois à travers le combat, Et elle s'affirme aussi à travers un ensemble de pratiques, dont les pratiques gymnastiques, lisons Platon et on le voit, dans les pratiques gymnastiques pour réussir à faire en sorte que cette anatomie ait de l'effet, de l'efficacité, etc. Et je pense que c'est très lié la pratique elle-même et l'apparence. Mais je pense que là, il faut vraiment, et c'est là que l'histoire devient passionnante, c'est là, il faut voir qu'il y a une histoire dans la représentation grecque et qu'il y a un enrichissement progressif. C'est-à-dire que les premières effigies, les fameux kouros, vous savez, ces sortes de personnages qui sont des statues et qui datent du 7e siècle avant Jésus-Christ, ces kouros, ils sont hiératiques, ils sont relativement peu musclés. Et puis progressivement, il y a une prise de conscience au 6e siècle, par exemple, du muscle, du galbe, de la manière dont s'affirme quelque chose qui est dans la morphologie, de l'apparence. Et puis progressivement, ça s'adoucit. Donc il y a une histoire que je trouve très intéressante parce que cette histoire, elle bascule insensiblement du privilège majeur donné à l'apparence masculine à un privilège insensible donné à l'apparence féminine, la douceur. Et on voit très bien, dans les périodes hellénistiques, 3e siècle avant Jésus-Christ, on voit très bien émerger du mouvement, de la douceur. Donc ce qui me paraît aussi très important en Grèce, c'est à la fois, comme ça a été très bien dit, cette recherche d'une sorte de donnée canon parfaite, mais en même temps, insensiblement, un travail sur l'histoire.
Romilly dit que c'est parce qu'il y a de la divinité qu'il doit y avoir de la proportionnalité dans la représentation des corps,
pour que
les équilibres soient respectés.
Je crois que c'est un problème central et c'est un problème qui nous rend finalement difficile de véritablement interpréter la statuaire grecque. Parce qu'effectivement, comme elle l'a très bien dit, ce que le corps représente, c'est aussi Dieu. Et la manière dont les statues sont installées renvoie, dans une certaine mesure, à du rituel, renvoie à de la croyance, renvoie à des gestes que nous avons du mal, nous, peut-être, à comprendre. Je crois que c'est très important, ça. De la même manière, on a du mal, bien, à comprendre quels étaient les enjeux des Jeux Olympiques en Grèce, voyez, parce qu'il y avait du rituel, il y avait de la religion, ce qui est complètement abandonné, ou en tout cas très différent aujourd'hui. Donc ça, il faut jamais l'oublier, mais c'est vrai, je reviens à ce que vous venez de dire, c'est vrai que la beauté passe par la tentative, dans une certaine mesure, de la chiffrer, de considérer que c'est un absolu, qu'on ne peut pas imaginer plusieurs types de beauté, il n'y en a qu'un.
Rupture avec le Moyen-Âge, deuxième moment de notre premier épisode, Georges Vigarello, alors là, il y a une incarnation, mais très différente, de Dieu qui prend la figure d'un bébé sur la paille, dans une étable misérable, d'un Christ battu de verges, couvert de plaies, couronné d'épines, qui meurt lentement sur la croix, appelant à la résurrection glorieuse des corps. Alors la conception de la beauté s'en trouve complètement bouleversée.
Ah, totalement bouleversée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux versants. Il y a un premier versant qui est celui de la prise de conscience de l'incontournable souffrance que représente l'humanité, la dette aussi que cette souffrance doit rendre par rapport au paradis terrestre, etc. Donc là, il y a une sorte de vision qui est une vision totalement réprouvée, totalement douloureuse de l'apparence humaine. Et d'un autre côté, il y a effectivement la résurrection. Mais en même temps, nous l'oublions jamais, il y a quand même le quotidien. Or, qu'est-ce que c'est qui valorise le quotidien au Moyen-Âge? C'est le chevalier, c'est-à-dire c'est celui qui incarne la force, la puissance, le fait de l'emporter, qui est celui qui perfore l'adversaire avec sa lance. Vous voyez, là, il y a une vision qui, à mes yeux, est relativement agressive, massive, finalement.
Il y a plus de termes, il y a plus de cheval, sport, mais il y a l'engagement
le
physique.
Le cheval étant un bon exemple. Le cheval, c'est celui qui ne change absolument pas de direction, qui va tout droit. Et la valeur, elle passe par là. Du coup, continuons de penser à la beauté. C'est encore une beauté masculine, finalement, si on voit les choses.
Et oui, Lancelot, il est beau, de la tête aux pieds, la dame qu'il sert, elle est lointaine et éthérée.
La dame n'est pas au cœur, or le chevalier est au cœur, et le chevalier en même temps, il a un visage qui renvoie à quelque chose qui est dans l'ordre du figé, du cristal dans les descriptions. Je pense à l'exemple de Froissart, lorsqu'il décrit Gaston de Foix, à la fois c'est un visage qui est souriant, qui est totalement dominateur, et qui a un côté au fond d'incarnation forte.
Ça s'entend lorsque tu passes, t'es beau, c'est vrai. J'en suis plus belle quand tu m'embrasses. Je te dessine du bout des doigts ton front, tes yeux, ta bouche. Comment veux-tu dessiner ça? La main me tremble,
quand j'y touche. T'es beau, mon grand. Et moi, vois-tu, je suis si petite. T'es beau tout le temps. Que ça me grandit quand j'en profite. T'es beau, tu sais. T'es beau. C'est vrai.
Le corps a une histoire dans la nouvelle série de La Marche de l'Histoire et aujourd'hui La Beauté avec Georges Ficarello qui a publié nombre d'histoires sur le corps, la virilité, l'obésité, la beauté, notamment aux éditions du Seuil. Vous brûlez Georges Ficarello, nous arrivons maintenant au 15e, 16e siècle, oui. Se dessine, se déploie la Renaissance de nous parler enfin de la beauté féminine.
Mais oui, parce qu'effectivement, à la Renaissance, il y a une rupture. Il y a plusieurs ruptures, en tout cas, il y en a une concernant l'apparence. Et on voit, c'est une rupture compliquée, on va essayer d'en dire un mot, on voit très bien que ce qui domine à partir de la Renaissance, c'est la beauté féminine. Autrement dit, il y a une affirmation de la femme, c'est compliqué parce qu'à la fois la femme est dominée et en même temps, elle s'affirme sur un mode qui est censé représenter la perfection, à la fois la douceur, l'accueil et cette référence, elle est très présente. Par exemple, les cours changent. Et il y a la volonté d'installer dans les cours des bataillons féminins. J'en pense à Catherine de Médicis. Ça change aussi parce que la description que fait Balthazar Castiglione du palais, c'est une description où il insiste beaucoup sur le fait que la Donna del Palazzo, elle accueille et elle est décor. C'est-à-dire que c'est elle qui fournit finalement ce qui enrichit au fond le palais. D'où cette sorte de partage qui va avoir une grande présence, à mon avis, dans la tradition occidentale. Partage qui est la femme, c'est l'être de l'intérieur, c'est l'être qui enrichit finalement cet intérieur en lui donnant une force esthétique indiscutable, et l'homme, c'est au contraire celui du dehors, c'est celui de la force, et donc c'est celui qui peut avoir une apparence impressionnante et donc forcément éventuellement laide. Vous voyez, ça c'est très très important, sinon on ne comprend pas. C'est-à-dire que l'homme à la fois il est fort, mais en même temps il peut avoir un côté hirsute, il peut avoir un côté emporté qui n'est plus du tout le côté de la beauté.
La femme dans la représentation au 15e, 16e siècle, je pense à Agnès Sorel, représentée un peu, alors qu'elle est la maîtresse de Charles VII, en vierge, avec le sein offert.
Oui, c'est une image.
Ce qui compte, c'est le haut, quoi.
Ah oui, alors c'est une image.
Après, j'enlève pas le bas.
Non, mais vous avez raison. Pourquoi? Parce que cette beauté, elle est à la fois représentée sous la forme de la nudité dans la peinture. Rubens, Rubens c'est 17e, mais passons au Botticelli, au grand peintre.
Vierge, Vénus. Voilà. Les deux.
Voilà. Mais il y a deux choses qui sont très importantes, me semble-t-il. La première, c'est, au-delà de la nudité, le fait que Vénus l'emporte, ce qui prouve une attention considérable au présent, une attention considérable au plaisir et dans une certaine mesure au désir. Ça entraîne des descriptions qui sont beaucoup plus riches, qui donnent à la beauté quelque chose de pulpeux, qui donnent à la beauté quelque chose de doucereux, etc. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, ces beautés, ce sont quand même des beautés du quotidien. C'est-à-dire que ce sont des beautés où la prise en compte de l'apparence et de la robe est tout à fait présente. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui devient important? Ce qui devient important, c'est ce que l'on voit le plus, c'est-à-dire finalement le haut. D'où des descriptions très étonnantes pour le regard d'aujourd'hui, mais qu'il faut absolument prendre en compte, et qui sont les suivantes. Le bas, c'est le soubassement. Le bas, c'est le pilotis. Le bas, c'est dans une certaine chose qui cache, parce que le bas cache des parties qui sont honteuses. Et le haut, au contraire, affirme véritablement ce qui est de l'ordre de l'esthétique. Si bien que les descriptions, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, je trouve que c'est très important, les descriptions renvoient à une image que l'on a tendance à oublier, qui est la suivante. La femme est installée sur un piédestal, le bas étant le piédestal, le tronc étant l'affirmation en cassant du vase, et le visage ressortant comme une fleur.
Et dans le visage, l'importance des yeux. Cependant, la main...
Alors, mais c'est le haut. La main fait partie du haut. Ah. Vous voyez, parce que le haut, c'est à la fois la physionomie, c'est à la fois le mouvement, la vivacité, mais c'est aussi, vous venez de le dire, et c'est très important, c'est l'œil. Alors, attardons-nous un instant à l'œil. Je pense en particulier à ce poète Sève qui fait 400 quatrains sur Délie, la femme qu'il aime. Quand vous regardez, quand vous lisez avec attention ces quatrains, vous voyez qu'il n'y a aucune description du corps. En revanche, 100 quatrains décrivent de façon systématique le visage. Et dans le visage, que décrit-on ? L'œil. Et comment décrit-on l'œil? C'est la flèche, c'est l'arc, c'est ce qui vient vous atteindre. Et c'est très important comme idée, pourquoi? Parce que vous êtes atteint, vous êtes du coup soumis à une beauté que vous ne pouvez plus discuter. Ce qui va être très différent dans les périodes modernes, vous voyez, dans les périodes plus contemporaines. Vous ne pouvez pas discuter, vous êtes atteint, il y a comme des effluves qui sortent de ce corps, et ces effluves partent par l'œil, vous avez même des descriptions selon lesquelles il y a des corpuscules qui viennent vous atteindre, et donc vous êtes complètement figé, vous ne pouvez plus, au fond, décider.
Ce sont les flèches de la vérité, parce qu'on ne peut pas corriger l'œil. Exactement. En revanche, le visage. Je parlais d'Agnès Sorel, 1450, date de son décès, qui a fait l'objet de tant de supputations. Voici une youtubeuse, confession d'histoire, Cybèle Villemagne. Elle est dans le rôle de la favorite de Charles VII.
Bonjour mes chéris. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les secrets qui ont fait de moi la dame de beauté, favorite officielle de notre roi Charles VII. Tout d'abord, pour garder le teint éclatant, en morning routine, utilisez l'onguent de ce cher monsieur Jacques Coeur. Crème fraîche, pétales de rose, fleurs de fèvre et nénuphars. Pour la nuit, badigeonnez-vous le visage de miel. Et en crème de jour, je recommande cette recette miracle pour un effet lift and repair imparable. Bave d'escargot, œillet et verre de terre. Pour le reste du corps, le classique et incontournable bain de lait d'anès suffira. Le plus important, c'est la blancheur. Pour ce faire, j'utilise un fard à base de farine avec une petite pointe d'arsenic. L'arsenic, c'est toujours le plus produit qui fait toute la différence.
Comme quoi, il n'y a pas que les conditions de la mort obscure d'Agnès Sorel qui fasse gamberger, mais aussi la blancheur de son visage qui renvoie à des harmonies célestes.
D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la beauté, c'est aussi le lieu de l'embellissement, c'est-à-dire c'est le lieu où on peut améliorer, avec tout un ensemble de résistances de la part des religieux qui disent on n'a pas amélioré ce que Dieu a créé. Néanmoins, les phares commencent à exister avec une certaine force. Alors, ce que vous venez de dire, effectivement, je trouve que il faut s'y arrêter un instant, parce que le grand dispositif de la Renaissance n'est pas indépendant de ce que la Grèce a inventé, à savoir la vérité, elle est dans le ciel, la vérité, elle est dans le haut. C'est le haut qui dicte en question. Et on retrouve le haut dans le visage. Et on retrouve le haut dans les yeux. Les yeux, ce sont les astres, vous voyez. Donc, il y a bien cette sorte d'idée selon laquelle c'est finalement le haut qui commande, pour des raisons diverses, dont des raisons cosmiques, qui commande les repères. Et il y a cette idée aussi que l'on peut, dans une certaine mesure, amender, corriger, améliorer ses repères. Le cas de Agnès Sorel est important, et de deux manières d'ailleurs. D'abord, en travaillant sur la surface, avec cette idée sur laquelle c'est le blanc qui est le plus important. Ils mettent d'ailleurs du plomb, ils mettent des choses qui sont très inquiétantes et très dangereuses. Hein. C'est une parenthèse. Donc, il y a cette idée sur laquelle le blanc l'emporte, parce que c'est un blanc virginal, c'est en même temps un blanc qui traduit des humeurs qui sont des humeurs de bonne composition. Et puis, il y a un travail sur l'intérieur. Par exemple, Agnès Sorel boit de la liqueur d'or, parce qu'elle pense que la liqueur d'or va épurer sa propre l'intérieur de son propre corps pour que cela puisse se voir à la surface.
Oui, alors, travail sur l'intérieur avec toutes sortes de dépuratifs. Mais si on passe à l'avant-dernier moment, le XVIIe siècle, l'ère classique où on commence à mieux connaître le ressort des choses, on fait moins référence aux sphères célestes et on va attendre d'un beau corps ou d'un beau visage qu'il reflète une belle âme, un admirable esprit et une intériorité qui n'est pas fabriquée, qui n'est pas de composition, qui est toute de bienveillance ou d'innocence.
Bah, il y a un jeu nouveau, effectivement, sur intérieur et extérieur. Je suis tout à fait d'accord. Mais revenons en arrière un instant. Ce qui se passe au XVIIe, c'est ce que j'appellerais, moi, une sorte de désacralisation du corps. Le corps entre dans un dispositif qui est celui de la mécanique. C'est plus du tout la dépendance des grandes forces célestes. Vous voulez. À partir du moment où c'est celui de la mécanique, on peut y travailler autrement. On peut le accepter de l'amender, de le construire, d'où le port du corset. Il y a une raison, quelque chose, qui vient s'imposer sur le corps, parce que c'est la raison qui est porteuse, au fond, de science et de logique. Et en même temps, le 17e suraccentue, on le voit chez Descartes, suraccentue la présence de l'âme. Donc, des descriptions nouvelles émergent, qui sont, elle a du feu, elle a de l'animation, elle fait exister quelque chose qui vient du fond d'elle-même, vous voyez. D'ailleurs, ce fond a de la difficulté à être décrit. Donc, on va dire, elle a un je ne sais quoi. qui fait qu'on trouve de la vivacité. Et ça, c'est très important parce que ça renvoie aussi à une idée qui est très, très nouvelle, c'est celle de l'expression. Vous voyez, il y a un travail nouveau sur l'expression. Par exemple, Madame de Sévigné, qui décrit les actrices, dit « elle est moche, elle n'est pas belle ». Mais quand elle dit des vers, elle est magnifique. Et là, il y a quelque chose de nouveau.
Ou bien, dirait Henri IV, nous sommes au tout début du XVIIe, l'an de grâce 1600, où on lui présente des portraits de sa future épouse, Marie de Médicis, qu'on surnommait aussi la grosse banquière. Elle a du poids, elle a des rondeurs, dit ravi, Bernard-Pierre Donadieu, qui interprète le rôle d'Henri IV en la circonstance.
Mais qui sont donc ces trois beautés, juste sous un ruissellement de fontaines dont elles prolongent la pluie d'or? On s'en ne fait qu'un tour. Les grâces. L'éducation de Marie ne peut pas être bâclée puisque ces trois-là veillent sur elle. Impossible de voir autre chose. On voudrait rester des heures. Nouvelle trinité en pleine chair, verticale, souple, cambrée. Me voilà à genoux encore. Sirène tortillée, enlaçante. Face, profil, dos, le tour complet. Ventre, cuisse, écu pour tous les goûts. Dans le roulis de la vague d'écume, elles se soulèvent, elles grandissent, elles viennent jusqu'à moi me chercher. Elles se déchaînent, elles me provoquent, elles exagèrent leur cambrement. Elles creusent les reins exprès pour moi, elles trémoussent, sortent les fesses. Dentelles de l'eau le long des hanches, cuisses, caramel, blondeur dénouée. Elles saillent de la toile, elles débordent, aguicheuses inoubliables.
Ah ben, le Verganant, il s'intéresse au bas, lui, hein, aux cuisses, au cul, aux hanches
là,
qui se soulèvent.
Et il y a une turbulence de mots qui rappelle Rabelais, d'ailleurs.
Aux rondeurs.
Aux rondeurs.
Alors,
oui,
la
absolument.
Rondeur dans la beauté, Georges Vigarello.
Absolument, parce qu'en fait, il y a toujours une relative contradiction. D'un côté, le critère le plus fort pour l'apparence féminine, c'est quand même la minceur, c'est quand même la légèreté. On le voit au 17e, on le voit au 16e. Hein. Les femmes consomment des produits qui sont faits pour qu'elles s'amincissent. Vous voyez, la taille un peu trop lourde n'est pas supportée. D'ailleurs, les lourds en taille sont des gens méprisés. Bon. Mais d'un autre côté, le désir masculin, je pense à des textes comme ceux de Brantôme, ont tendance à considérer que ce qui attire, c'est quand même la chair opulente, c'est-à-dire la chair que l'on peut, dont on peut disposer de façon extrêmement faste, vous voyez. Il y a quand même cette contradiction entre les deux. Néanmoins, c'est quand même la minceur qui l'emporte. Quand on regarde avec attention, quels sont les critères dominants, c'est quand même ceux de la minceur. Reste que, n'oublions jamais, la peinture le montre, je pense à Rubens, reste que, il y a des représentations assez réalistes des corps, qui acceptent finalement le fait qu'il y ait ce que l'appellerait la cellulite aujourd'hui, qui n'existait pas en termes de sous ce mot au XVIIe, mais on accepte. Et je trouve que Rubens est intéressant, parce que je pense qu'il y a trois corps chez Rubens. Il y a un premier corps qui est celui que l'on voit, par exemple, dans la grande galerie Médicis, où les nymphes ont ces sortes de chair pulpeuse, sans être véritablement obèse, bien entendu, mais un peu généreuse.
Et là intervient Marie de Médicis.
Et là intervient Marie de Médicis, généreuse, vous voyez. Il y a aussi un corps qui est méprisé, qui est celui des damnés qui tombent finalement dans l'enfer, parce qu'ils ont trop profité de la vie. Donc leur chair craquelle, ils sont lourds, ils sont horribles, etc. Et puis il y a un troisième corps, que l'on oublie toujours quand on parle de Rubens, c'est celui de sa femme. Lorsqu'il se représente avec sa femme n'est absolument pas, ne représente pas les nymphes de la galerie de Médicis, et encore moins les damnés qui tombent en enfer. Elle est mince, elle apporte un corset. C'est très important parce qu'on voit très bien, vous voyez, je continue de dire, on voit très bien comment, finalement, dans l'idéal, la minceur reste dominante.
Mais c'est aussi qu'on représente moins les nourrices, les villageoises, et que nous sommes un peu constamment, depuis un moment, Georges Vigarello, dans le milieu de la cour. D'ailleurs, le dernier instant que nous allons évoquer au XVIIIe siècle, c'est à Versailles, dans le salon de Madame de Pompadour, où il va être question de Voltaire, et puis du nom de Rousseau, que le roi Louis XV, c'est un docu-fiction bien connu, Le Soleil Noir, apprécie modérément.
Notre bassin élargi provoquerait une démarche vacillante,
ralentie autant qu'embellie.
Rousseau ajoute pourtant que c'est votre démarche même, mesdames, qui vous empêcherait de fuir, facilitant ainsi votre dépendance et votre soumission.
Certains assurent encore cependant que la finalité et la forme du corps de la femme, sa beauté même, la maintiendraient encore dominée.
Demandez à un crapaud ce qu'est la beauté. Il vous répondra avec mon ami Voltaire que c'est sa crapaude.
avec ses deux petits yeux ronds sortis de sa tête, une gueule longue et plate, un ventre jaune et un dos brun.
Très spirituel. Très spirituel.
Je me demande si Monsieur Rousseau n'a pas raison de vouloir libérer les femmes du corset. Comment les femmes acceptent-elles de se soumettre à pareille torture ?
C'est que, pour les hommes, dit-on, la finesse de la taille, madame, la promesse des plaisirs les plus délicats.
Votre ami, dont je préfère oublier le nom, n'a-t-il pas proposé de débarrasser aussi les femmes de leurs jupons et corsages ?
Mais la pudeur, Louis.
Ève était nue jusqu'à l'invention de la honte.
Soit. Mais fermez les yeux.
Certainement pas.
On en viendra à Rousseau, comme promis, l'ami dont le roi préfère oublier le nom. Mais Voltaire d'abord, si on demande à un crapaud de définir la beauté, il vous répondra en vous montrant sa crapaude avec ses yeux.
Bien sûr, il y a beaucoup de choses dans cet échange, mais c'est vrai que ce qui domine en l'occurrence, c'est l'idée que la sensibilité va s'imposer. Jusqu'ici, nous décrivions des corps qui, au fond, imposent leur propre beauté à l'autre. Qu'est-ce qu'invente le XVIIIe siècle ? Il invente le fait que nous avons chacun une sensibilité. Et que cette sensibilité peut nous conduire à préférer telle ou telle chose. À un point tel que Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, dit « Si on me demandait de faire un traité sur la beauté, je ne pourrais pas, je ne le ferais pas. » Ça, c'est très important parce que, vous voyez, du coup, il y a une marque plus majeure qui part de l'individu, qui choisit. Alors que jusque-là, il était face à une beauté imposée. Revenons sur Rousseau. Je trouve que ce qu'inventent les grands auteurs du 18e, c'est d'abord l'idée que la femme est égale. On l'oublie. La femme est égale. Mais en même temps, ils maintiennent une domination. Comment font-ils ? Bien, ils disent finalement, ce sont les organes féminins qui imposent le fait qu'elle est uniquement réservée à la fécondation. Donc voilà pourquoi elle a un bassin très large, voilà pourquoi elle a une démarche qui n'est pas celle de l'homme, et voilà pourquoi nous avons la responsabilité en cœur de la politique. Elle peut avoir la responsabilité des mœurs, mais elle est quand même dominée. Vous voyez, ça c'est là une grande bascule, parce que d'un côté il y a une avancée et d'un autre côté il y a le maintien d'une tradition.
Oui, mais le bas, pour en revenir au bas, il est libre maintenant chez Rousseau.
Alors, il est libre sans être libre. Je m'explique. Il va être libre au moment de la Révolution. La robe va complètement changer et elle va tomber, mais très vite. Elle va revenir. Et à nouveau, on va avoir ces robes qui vont s'évaser. En fait, le bas, c'est seulement une invention de la fin du 19e siècle. C'est très tard.
Mais Saint-Preux, dans la nouvelle Héloïse, disait « Ce n'est pas seulement de tes beautés que je suis amoureux, mais de toi, tout entière, telle que tu es. » Merci à vous, Georges Vigarello. On vous retrouve demain, peut-être pour parler de la laideur, au fond. Et puis je renvoie à votre histoire de la beauté, collection Point au Seuil, à votre histoire collective du corps, avec Corbin et Courtine, et à tant d'autres écrits. C'est un peu le début d'une nouvelle aurore, ce jour. C'est la rentrée. Et ça nous a donné envie de vous faire entendre, avant de passer le relais à Fabrice Drouel, à une vieille autopromotion des années 1970 dont vous allez me dire de vos nouvelles.
France Inter, France Inter, jour et nuit c'est la radio que je préfère. France Inter, France Inter, oui c'est le programme radio que je préfère. Comme tout conducteur j'écoute en voiture inter-service route. Pour rouler je ne m'en fais pas, on me tire toujours d'embarras sur ma gâtelle 33-33 sur la route de nos vacances.
Et puis une nouvelle dans l'équipe le lundi dans la marge de l'histoire, Juliette Gou, Pierre-Yves de Roulin assurait la technique, qui est toujours notre équipe fidèle, Ilinka Negulesco, Franck Olivard, Frédéric Martin, quantité de nouveautés sur notre site.